Alors bonjour à chacun. Je dois vous avouer que quand on arrive là, ça pique un peu parce qu'on se dit mais waouh, la Savoie, il y a tout. Nous on a les immeubles et vous, vous avez les montagnes. Mon mari aime tellement les montagnes, c'est quelque chose, le paysage minéral, le ressource. Et moi je suis plutôt paysage aquatique, mais vous avez aussi les grands lacs, donc vous avez tout. Et puis en plus, vous avez la croziflette. Et là, j'avoue que là, vous m'achevez. On a mangé une croziflette hier soir d'une succulence qui a fait qu'après, on allait se coucher. Qu'est-ce qu'on a bien dormi ? Parce que c'est quand même dense, on va dire ça. Surtout que comme on était gourmands, on s'est resservi une deuxième fois. On n'avait plus faim, mais voilà, on a fait honneur à ce plat. Et je suis encouragée de voir comment le Seigneur vous bénit. On était passé il y a très très longtemps dans l'église baptiste de Chambéry quand vous étiez encore dans la rue du Bon Pasteur, mais il y a plus de 20 ans, et de voir ces locaux magnifiques, et d'apprendre qu'en plus, il y a presque des soucis de place, mais c'est un bon problème, la croissance. Donc vous êtes bénis, et c'est un privilège pour nous d'être là aujourd'hui avec Pascal et d'être venu partager dans votre église. Et je vous propose, on commence tout de suite par lire un passage de la Bible. C'est un passage que nous avons commencé à lire ensemble vendredi soir et on va continuer sur la lecture de cette parole. C'est dans Marc 5, 25. Je vais le lire dans la version Parole Vivante. Vous n'êtes pas obligé de le lire. Je vais le lire pour vous. C'est ce passage où Jaïrus vient chercher Jésus et Jésus va partir avec lui. Et donc Jésus part avec Jaïrus. Il est suivi d'une foule compacte qui le sert de tous côtés. Et au milieu d'elle se trouve une femme atteinte depuis 12 ans d'hémorragie. Elle a passé entre les mains de nombreux médecins et en a beaucoup souffert. Elle a dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état ne fait que empirer. Alors elle a entendu parler de ce Jésus et, sous le couvert de la foule, elle s'approche de lui, se glisse derrière lui et touche son manteau. Elle se dit en effet: oh, si du moins j'arrivais à toucher un bout de ses vêtements, je serais guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrête et elle ressent dans son corps qu'elle est délivrée de son mal. Jésus aussi s'est aperçu immédiatement que quelqu'un a fait appel à sa puissance et il se retourne et dit aux gens qui l'entourent: « Qui vient de toucher mes vêtements ?» Ses disciples lui disent: « Mais tu vois la foule qui te presse de tous côtés, comment peux-tu demander qui m'a touché ?» Mais lui continue de promener son regard autour de lui pour découvrir qui a fait cela. Alors la femme, sachant ce qui s'est passé en elle, se met à trembler de peur. Elle vient se jeter à ses pieds et lui avoue toute la vérité. Jésus lui dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars tranquille et sois guérie de ton mal. » Et on a entamé cette histoire vendredi soir. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle décrit un chemin de restauration. Elle illustre ce que Dieu peut faire, ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Alors, il est vrai que le Saint-Esprit va agir différemment dans nos vies parce que nous sommes tous uniques, qu'il n'y a pas un chemin unique. Mais il y a une chose universelle, c'est que le processus de restauration que Dieu veut faire dans chacun de nos vies, ce processus est toujours collaboratif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce processus de restauration va toujours nécessiter que nous mettions notre volonté en action et que nous mettions notre foi en action. Et c'est ce qui est beau dans cette histoire et c'est ce qui nous enseigne à chacun de nous, c'est la foi de cette femme. On a vu un petit peu vendredi soir qui était cette femme, et je ne vais pas reprendre tout ça, mais c'est juste une femme qui est solitaire, qui est accablée. Et elle traverse la vie avec une souffrance à l'intérieur d'elle-même. En fait, c'est une femme qui porte plusieurs petites morts à l'intérieur d'elle-même. Il y a une souffrance intime là, quelque chose qui, au fond d'elle-même, cette souffrance, elle aspire sa vitalité. Alors, de l'extérieur, ça ne se remarque pas, mais en fait, cette souffrance l'empêche de vivre pleinement sa vie de femme, ça l'empêche de rentrer pleinement dans sa destinée. Elle aussi, elle aimerait être comme tout le monde et puis pouvoir mordre la vie à pleines dents, mais elle se retrouve, cette femme, à survivre au jour le jour. Ça, c'est ce que nous avons vu, c'est ce qui se passait en elle. Elle est dans un enfermement, sa solitude, parce qu'elle ne peut pas vivre des relations épanouissantes à cause de cette hémorragie. Elle a le sentiment d'exclusion. On voit dans le texte biblique qu'elle est en marge de la foule.
Il y a cette dévalorisation, cette mésestime de soi au fond d'elle. Il y a un sentiment d'échec pour cette femme parce que tout ce qu'elle touche est impur. Et puis il y a cet épuisement intérieur parce qu'une anémie depuis 12 ans, ça l'a complètement carencée. Et puis il y a ce sentiment de honte. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi rien ne fonctionne? Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de nous intéresser à la suite de cette histoire. Parce que cette femme, elle va avoir cette foi incroyable de croire que si quelqu'un peut faire quelque chose pour elle, ben c'est peut-être ce Jésus dont elle a entendu parler. Ce Jésus qui, à ce moment-là, pique la curiosité de tout le monde. Il est en vue, et il est tellement en vue qu'il est au milieu d'une foule dense et compacte qui l'enserre. Il est presque inaccessible. Et elle se dit, il suffirait d'un attouchement divin pour que ma situation soit transformée. Si seulement je pouvais m'approcher de ce Jésus, ne serait-ce que toucher le bord, la frange de son manteau, je serais guérie. Et j'aime dans cette femme cette attitude, parce qu'elle ne reste pas victime, elle ne reste pas statique, elle ne reste pas passive, elle va entreprendre quelque chose d'extrêmement courageux, elle va entreprendre de se frayer un chemin jusqu'à Jésus. Elle va aller le chercher, cet attouchement divin. Et ça, c'est indispensable. Ce qui est indispensable, c'est de croire. Croire que Jésus peut faire quelque chose pour toi, dans ta situation. Croire qu'un miracle est possible, là où tu confrontes les limites de l'être humain. Croire, c'est indispensable. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il faut, après, se mettre en marche comme elle. Et malgré toutes les nombreuses déceptions qu'elle a eues dans le passé, cette femme va décider de dépasser ses peurs et d'entreprendre tout ce cheminement pour aller s'approcher au plus près de Jésus. Elle a cette audace incroyable et elle nous invite en fait à suivre son exemple. Peut-être que plusieurs parmi vous portent une souffrance dans leur cœur, quelque chose qu'il a depuis longtemps, et que peut-être que dans ce que tu vis aujourd'hui, tu as besoin d'une intervention surnaturelle de Dieu par rapport à ta vie, par rapport à tes circonstances. Fais comme elle, va chercher auprès de Jésus cet attouchement divin. Va chercher auprès du Fils de Dieu cette force divine dont tu as besoin qui va retourner ta situation. Alors, je sais que c'est facile à dire comme ça. Hein. En réalité, face à certains blocages dans notre vie, mais qu'est-ce que c'est dur à faire? Parfois, il nous faut un temps fou pour enclencher ce processus, ce chemin de foi, pour décider d'aller voir Jésus au sujet de ce qui rétrécit nos vies. Pourquoi? Mais parce que, en fait, c'est tellement plus facile de s'en accommoder, de dire bah, mais non, le problème, il n'est pas si grave, ça va passer, bon, avec un peu d'effort, ça va aller mieux. Non, mais c'est bon, je gère, je vais m'en sortir tout seul. Ou alors, je vais demander à Pierre, Paul, Jacques un petit peu son aide. En fait, c'est souvent quand on a épuisé toutes nos ressources, toute notre stratégie, toutes les solutions peut-être qu'on nous a proposées, en fait, c'est quand on est ruiné, comme cette femme l'était, qu'on se décide enfin à se mettre en route pour aller chercher l'intervention surnaturelle de Dieu dans nos vies. Bien souvent, c'est vrai, en tout cas pour moi, c'est souvent cette énergie du désespoir qui va nous mettre en chemin. Et puis, quand enfin on se décide à aller en chemin parler à Jésus de ce qui peut-être ronge notre cœur, là, moi, je constate qu'il se passe souvent un phénomène étrange. C'est que, bon, on peut se dire, yeah, ça y est, je me suis levée, j'y vais. Je vais parler de ça avec Jésus. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben déjà, il n'y a personne qui vient applaudir ta décision. Et puis, tu n'entends pas une chorale d'anges qui chante un alléluia pour te féliciter, ni il n'y a pas un chérubin qui vient dérouler un tapis rouge sous tes pieds. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la première chose que tu vas rencontrer, c'est que tu vas te heurter à la foule. Cette foule qui fait obstacle entre toi et Jésus. Et comme cette femme, bien souvent, nous avons à nous frayer un chemin au milieu de cette foule. Alors cette foule, c'est quoi? C'est quoi? C'est les gens de l'église? C'est les gens de ma famille? Mais non. Non, parce que les plus grands combats se situent à l'intérieur de notre cœur. Alors cette foule, c'est quoi? Eh bien, pour moi, c'est cette multitude de voix qui va s'élever à l'intérieur de soi au moment où on décide de se mettre en marche. Cette multitude de voix qui vont commencer à critiquer, à se moquer, à juger, à décourager. Et il est possible que toi, tu aies l'habitude d'entendre ces voix. Ça va être peut-être la voix de la fatalité qui va venir en toi et qui va te dire « Mais non, ça ne sert à rien. Les choses, elles sont comme ça. Il faut l'accepter. Ça ne va pas changer. » Ça peut être la voix de la rationalisation qui va te dire « Non mais sérieux, t'espères quelque chose de ce Jésus ?» Ça peut être la voix de la raison qui te dit bah, « En fait, tu ferais mieux d'entreprendre ça ou de faire les choses comme ça ?» Et puis alors la pire, c'est la voix de l'orgueil qui dit bah « Non, t'as pas besoin de ce Jésus, tu peux te débrouiller tout seul. » On peut entendre encore, quand on traverse cette foule de voix, la voix de nos peurs. Nos peurs qui te disent « Oh non, mais c'est trop risqué, n'y va pas, fais demi-tour. » Et si tu affrontais à nouveau un échec? Et s'il ne se passait rien? Tu serais encore plus déçu et tu portes déjà tellement. Ne va pas au-devant de cette déception. Tu veux voir le miracle de Dieu dans ta vie? Il va falloir te frayer un chemin au travers de cette foule. Il y a encore d'autres voix qui vont être là tandis qu'on essaye de traverser cette foule. C'est la voix aussi de tous les préjugés qu'on projette sur Dieu. Bon, il n'est pas si intéressé par ce que je vis. Il est peut-être trop lointain. Chacun peut entendre quelque chose qui va projeter sur Dieu parce qu'on porte à l'intérieur de nous des images tellement fausses de qui est Dieu. Alors il va falloir se mettre en chemin. Traverser cette foule hostile et compacte, toutes ces voies. La foi, c'est un chemin qui demande du courage, de la persévérance, de l'audace. On va être tenté de lâcher l'affaire, on va être tenté de démissionner, de rebrousser chemin, d'abandonner la partie. Bon, c'est pas la peine. Bon, de toute façon, je savais que ce serait trop compliqué. Et puis, on va entendre aussi, et j'étais touchée parce que Dominique a partagé tout à l'heure cette petite histoire qu'elle a racontée devant la télé. On va aussi entendre la voix de tous ces petits pharisiens qui cohabitent à l'intérieur de notre tête et qui vont nous dire « Non mais t'as vu, déjà t'es même pas capable de... » Puis de toute façon, t'es responsable de ce qui t'arrive, hein. C'est ta faute, faut payer maintenant. T'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Tous ces petits pharisiens-là, pendant qu'on va essayer de traverser cette foule pour rejoindre le cœur de Dieu, qui vont venir avec leur voix persifleuse, la voix de l'incrédulité, qui va nous dire bah, « Si c'est si difficile, c'est que Dieu veut pas te bénir, hein, parce que sinon, ce serait facile, hein, les anges, ils seraient là. » Il te porterait, et puis on va avoir comme ça cette tendance à avancer, à reculer, à avancer, à reculer au milieu de cette foule qui est hostile. C'est tellement dur de traverser tout ce brouhaha, d'avancer au milieu de toutes ces multiples voix. C'est tellement difficile de faire silence au fond de soi pour entendre la voix de Dieu nous parler. Mais cette femme, elle nous a montré l'exemple il y a 2000 ans. Et moi, j'aimerais vous encourager. Si tu veux voir le miracle de Dieu dans ta vie, alors persévère, va le chercher. Ne lâche pas, traverse cette foule. Vous savez, quand on chemine avec Dieu depuis longtemps, et j'ai ce privilège avec mon mari de cheminer avec Dieu depuis longtemps, en fait, même quand on connaît Dieu depuis longtemps, ça reste défiant. Ça reste toujours défiant de traverser ce brouhaha hostile et dense. Et en fait, il y a des victoires qui vont prendre un temps fou dans nos vies, parce que tant qu'on n'a pas épuisé toutes nos ressources personnelles, on ne se met pas en quête du surnaturel de Dieu. Ben, c'est tellement plus facile de minimiser le problème, hein, puis de s'en accommoder, ou alors d'en imputer la faute aux autres ou aux circonstances. C'est seulement quand je vais assumer ma propre responsabilité, et c'est seulement quand je vais enclencher ce cheminement vers le surnaturel que je vais commencer à entreprendre ce chemin vers le miracle de Dieu. Mais après, probablement, très souvent, dans ma vie en tout cas, il me faut traverser cette foule hostile, dense, compacte, qui m'empêche de m'approcher du cœur de Dieu. C'est vrai qu'il y a des victoires qui prennent un temps fou dans nos vies. Parce qu'il y a toute cette foule de nos préoccupations, de nos activités, toute cette foule de nos prétextes, toute cette foule de nos peurs, de nos préjugés, toute cette foule des reproches qu'on se fait à soi-même, toute cette foule de nos déceptions qui vont être là, toutes ces voix qui vont être si nombreuses qu'elles vont chercher à nous décourager. Mais quel que soit le temps que ça va nous prendre, on ne sait pas combien de temps cette femme a mis pour rejoindre Jésus, quel que soit le temps que ça va te prendre, fixe les yeux sur Jésus et va chercher ce miracle que tu as besoin pour ta vie. Alors il y a parfois, on perd Jésus de vue, parce que dans une foule, il y a des grands bonhommes. Et puis, il y a des fois, tu ne sauras plus très bien où il est. La foule, elle va te cacher Jésus à tes yeux. Mais ce n'est pas grave. Continue d'avance, ne doute pas, ne recule pas, persévère. Parce qu'on a cette promesse de Jésus, enfin de Dieu notre Père, qui nous dit que si on le cherche, on le trouvera parce qu'on le cherche de tout notre cœur, dans Jérémie 29, 13. Donc si cette femme ordinaire, si cette femme qui était carencée, anémiée, exclue, si cette femme ordinaire, elle a pu traverser toute cette foule, malgré la souffrance qu'elle portait, nous aussi, chacun de nous, peut enclencher ce processus pour aller s'approcher de ce Jésus et vivre et recevoir le miracle que Dieu a en réserve pour toi. Ne lâchez pas si vous êtes dans cette situation. Et alors finalement, cette femme, elle a réussi à arriver auprès de Jésus. Elle s'est frayée ce chemin au milieu de cette foule dense. Elle s'approche discrètement, pleine d'espérance, et elle touche, en loose dé, comme diraient les jeunes, le pan du manteau de Jésus. Et là, miracle. Il y a une connexion avec le monde spirituel. C'est cette fameuse promesse que je viens de citer de Jérémie 29. Si vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Aussitôt qu'elle a touché le manteau de Jésus, il y a une force qui quitte Jésus. Et une force, c'est quoi ? Ben, c'est justement une force divine que Dieu veut transférer de son cœur à notre cœur. Là où cette femme était brisée et n'avait plus de ressources, Dieu veut transférer une force surnaturelle. Là où on a lutté de toutes nos forces pour avancer, pour exister, pour prouver qu'on avait de la valeur, pour continuer à avancer malgré les déceptions, malgré les trahisons, malgré les injustices, Dieu nous invite à venir chercher sa force en lui. Et instantanément, le surnaturel se passe. L'hémorragie de cette femme s'arrête. Waouh ! Ça, c'est une guérison. On a parlé un petit peu vendredi soir du symptôme que signifiait cette hémorragie. En fait, c'est comme si son corps instantanément s'arrête de pleurer des larmes de sang. Il y avait une souffrance profonde dans cette femme. Et là, ben on est super content pour cette femme. On aime bien les happy hands, hein, n'est-ce pas ? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pourquoi l'histoire ne s'arrête pas là ? Parce que bien souvent, Dieu... En fait, nous avons tendance, en tout cas moi j'ai tendance à faire des rêves de myope, c'est-à-dire que ben, je voudrais bien un petit coup de pouce de Dieu pour changer mes circonstances, hein, pour obtenir un visa, pour être guérie de cette maladie, pour que mon couple aille mieux, pour trouver l'âme sœur. En fait, on est souvent petit dans nos demandes. Mais Dieu, lui, en fait, il voit plus loin que la disparition du symptôme. Il voit plus loin que la disparition de nos circonstances difficiles. En fait, ce que Dieu veut faire, ce qu'il rêve pour nous, c'est de venir toucher en profondeur notre cœur. Alors oui, il peut renverser nos situations, oui, il peut guérir nos corps, oui, il peut libérer sa bénédiction, mais il voit encore plus loin. Ce qu'il veut, c'est restaurer notre identité en lui. Ce qu'il veut, c'est venir guérir en profondeur dans notre âme. Ce qu'il veut, c'est que nous quittions la survie intérieure pour que sa vie en abondance jaillisse à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça que je dis, c'est que cet attouchement divin qu'elle a eu avec le Fils de Dieu, ce miracle, cette hémorragie qui s'est arrêtée, ok, ça c'était les circonstances extérieures, mais c'était que la première partie du miracle. Parce que l'histoire continue. Et la guérison de cette femme va bien au-delà de la disparition de cette hémorragie. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Comment Jésus s'y prend avec elle. Et là, c'est un moment que j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est un vrai sketch. Qui m'a touchée, dit Jésus en regardant autour de lui. Alors là, les disciples, moi, si j'étais, je sais pas, ils hallucinent quoi. Ils se disent non mais quoi Jésus ? C'est comme le métro à une heure de pointe, un jour de grève. Tu demandes qui t'a touchée, mais en fait t'es compressé comme une sardine dans une boîte. Il y a le sac à dos de la dame, il y a le coude du monsieur, il y a le pied de l'enfant, et tu demandes qui t'a touchée. Mais en fait c'est pas sérieux quoi. Et puis Jésus il dit. Non mais là les gars vous avez pas compris. Moi je suis dans une autre dimension. Je parle spirituellement parce que j'ai senti qu'une force de guérison m'a quittée. Alors là je sais pas vous, mais moi j'aimerais pas être la femme à ce moment-là. Parce que quand je lis ça je me dis, oups, quel manque de tact Jésus. En fait il est en train de mettre cette pauvre femme mal à l'aise devant tout le monde. Et ça fait mal. Si en plus on a tendance à lutter contre la culpabilité, et c'était aussi ce que vivait cette femme. Je vous garantis que là, c'est le moment où on ressent un grand moment de solitude et qu'on voudrait se cacher dans un trou de souris et disparaître. Cette femme, j'imagine qu'elle ne sait plus où se mettre. J'imagine que le rouge lui monte aux joues, qu'elle tremble, elle se sent prise en faute en flagrant délit. De toute façon, cette femme, quoi qu'elle fasse, elle est toujours fautive. Donc, elle est là en train de batailler à l'intérieur d'elle avec la culpabilité. Mais la pédagogie de Dieu est merveilleuse parce que c'est justement à cause de cette culpabilité que Jésus insiste. Qui m'a touchée ? Ce n'est pas pour la mettre mal à l'aise, Mais c'est parce qu'au-delà de l'hémorragie, il veut aussi aller guérir son âme. Il veut aussi la sortir de la honte. Il veut aussi la guérir de son abattement. Il veut aussi la sortir de cette mésestime d'elle-même. Il sait que la blessure est plus profonde que le symptôme extérieur. Alors comment Jésus va s'y prendre pour aller guérir en profondeur? Eh bien déjà, avec sa question, il lui offre d'établir une relation avec elle, une connexion avec elle. Pourquoi Jésus cherche à lui parler? Elle a été guérie de son hémorragie dès qu'elle a touché son manteau, n'est-ce pas? Pour Dieu, pour Jésus, il est capital pour que cette guérison soit intégrale qu'une connexion, qu'une relation s'établisse entre elle et lui. Et si on regarde, voyez avec quelle délicatesse Jésus s'y prend. Parce qu'il n'oblige pas cette femme à sortir de l'ombre. Il l'invite à sortir de l'ombre. Parce que quand il demande « Qui m'a touché ?» Franchement, vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai un peu du mal à y croire. Quoi. Lui, le Fils de l'homme, capable de sentir que le toucher d'un doigt sur un manteau d'une femme a été différent de tous ces touchés qui le pressent et le serrent de toutes parts, à mon avis, c'est un jeu de dupes. Il sait qu'il a touché. Je crois, pour moi, je suis convaincue qu'il avait la capacité de se retourner, de la regarder dans les yeux directs et de lui dire « Pourquoi m'as-tu touché ?» Et en fait, même cette question, je crois qu'il avait déjà la réponse. Il savait pourquoi elle l'avait touché. Mais comme c'est un merveilleux pédagogue et comme c'est un chirurgien des cœurs, il va poser cette question « Qui m'a touché ?» Même s'il connaissait déjà probablement la réponse. Pourquoi ? Parce qu'il propose à cette femme d'entrer en relation avec lui, mais il ne lui impose pas. Parce que s'il l'avait démasqué devant tous en disant « Pourquoi m'as-tu touché ?» il lui imposait. Donc, Dieu est comme ça. Il nous offre, il nous propose, il nous invite à vivre cette relation avec lui, mais jamais il va venir nous l'imposer. Il aura cette même délicatesse avec toi qu'il a avec moi et qu'il a eu avec cette femme. C'est à nous d'accepter son invitation, c'est à nous d'accepter son offre, c'est à nous de saisir cette invitation, c'est à nous de le vouloir. Et pour moi, quand Jésus lui pose cette question superflue, c'est comme s'il laissait le choix à cette femme et elle peut rester en retrait, elle peut ne rien dire, rester anonyme au milieu de la foule. Le processus de guérison qui s'est enclenché dans son âme n'ira pas plus loin. Pardon, le processus de guérison qui s'est fait dans son corps, cette hémorragie qui s'est arrêtée, il est là. Ça n'ira pas plus loin, ça n'ira pas jusque dans les profondeurs de son âme. Elle a le choix. Et aujourd'hui, Jésus te met aussi devant un choix. Tu peux choisir d'aller jusqu'à ce cœur avec lui, ou tu peux rester juste en retrait, observateur, regarder de loin. Il ne va pas s'imposer à toi. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est que cette femme, elle va faire un pas de foi supplémentaire et elle va accepter cette offre de connexion avec lui. Elle va oser croire qu'il n'est pas là pour la condamner, qu'il n'est pas là pour la juger. Et nous aussi, est-ce qu'on va oser croire que si on s'approche plus près de Jésus pour lui parler, il ne va pas nous condamner, il ne va pas nous juger ? Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Mais elle, le texte nous dit qu'elle tremble de peur. Oui, quand Dieu nous invite à faire un pas de foi, ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Qu'est-ce qui se passe pour cette femme? En fait, elle a peur d'entendre des reproches, elle a peur d'entendre des paroles de sanction. Tu n'as pas assez bien fait ceci, tu aurais dû faire cela ou comme ci, comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est répréhensible par rapport à la loi. Jésus connaissait Lévitique 15. Lévitique 15, c'est quoi? C'est un texte de la loi qui exclut les femmes qui sont victimes d'hémorragie. Alors lui connaissait, hein, Rabbi Jésus. Il aurait pu lui réciter ce texte. Il aurait pu l'accuser devant tout le monde. Il aurait pu l'humilier devant tout le monde. Parce qu'elle était fautive. Eh, pardi, pour se frayer un chemin au milieu de la foule et aller toucher le Fils de Dieu, elle a dû en toucher des personnes. Alors qu'elle était considérée comme impure à cause de sa maladie. Et puis en plus, elle veut toucher qui? Rabbi Jésus, loin, le Messie, l'envoyé de Dieu, c'est risquer le contaminer, lui aussi. Vous imaginez le scandale? Et si souvent on croit que le fait de s'approcher de Dieu, on va s'exposer et que la première chose que Dieu va nous dire, c'est de dénoncer tout ce qui ne va pas avec moi. C'est de mettre en lumière tout ce que je sais déjà, mes échecs, mes ratages, toutes ces pensées accusatrices qui tournent à l'intérieur de nous. On a cette image qu'on projette sur Dieu. Et cette femme, elle a du courage parce qu'elle ravale ce qui lui reste de fierté. Elle ose faire confiance. Elle saisit cette offre de connexion, de relation, et elle rentre en dialogue avec lui. Et tant pis si Jésus la condamne. Elle sort de l'anonymat. Elle s'affiche devant tout le monde. Et elle répond, en tremblant probablement, « C'est moi ». Et alors Jésus va lui parler. Et déjà, il ne la condamne pas. Il n'y a aucune trace de reproche dans ses propos. Il ne fait même pas mention de cette fameuse loi qu'elle a transgressée, le fameux Lévitique 15. Il commence et il dit « Ma fille ». Waouh ! C'est plein de tendresse, c'est plein d'affection, c'est plein de familiarité même, surtout pour quelqu'un comme elle qui était en rupture relationnelle. « Ma fille ». Ça veut dire quoi ce « ma fille » ? Et là, je trouve que Jésus se positionne de manière surprenante et inhabituelle dans l'Évangile. Il se positionne comme un père. On avait déjà entendu la voix du Père Céleste résonner sur la terre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, c'est comme si à ce moment-là, Jésus, par délégation, devient la voix du Père pour cette femme. Pourquoi ce « ma fille », tout comme il aurait pu dire « mon fils » ? Il y a une blessure dans l'histoire de cette femme. On ne se met pas à saigner comme ça sans raison. On ne se met pas à perdre sa vitalité sans qu'il y ait eu quelque chose qui se soit brisé à l'intérieur de soi. Et là, ce que Jésus est en train de faire, c'est que ce n'est plus son corps qui guérit, mais c'est son cœur qui veut aller guérir. Il est en train d'entamer ce processus de restauration de son âme. Et quand on a manqué, par exemple, de liens affectifs forts, structurants, de protection, d'amour inconditionnel pour se construire, c'est une blessure profonde au fond de soi. Et ça continue d'impacter l'adulte que nous sommes devenus aujourd'hui. Quand on traverse la vie avec cette impression de ne pouvoir compter que sur soi, de devoir se débrouiller seul et de survivre, perpétuellement survivre, au lieu de vivre intensément. En fait, on est comme un orphelin. Comme un orphelin qui, face à des adultes défaillants parfois, n'a pas eu d'autre solution que de faire face, d'apprendre à ne compter que sur lui pour ses besoins. Alors être indépendant, on peut en être fier, certes, mais c'est se sentir seul aussi. Et quand on fonctionne comme un orphelin, l'émotion dominante, c'est la peur. La peur qui ronge nos entrailles, la peur qui bouffe nos nuits, la peur de ne pas être à la hauteur. Parce que quand on est orphelin, il faut toujours mériter, rien n'est gratuit. Tout se mérite. La peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur, cette peur qui va nous empêcher en fait d'être intime avec les autres et d'oser ce risque de la vulnérabilité. Alors on peut être un adulte parfaitement intégré dans la société, être bardé de diplômes et pourtant avoir son cœur qui fonctionne encore comme celui d'un orphelin. Et puis il y a ce manque de présence, d'encouragement, peut-être ce manque de reconnaissance, de validation, ce manque d'attention, tous ces divers manques qui ont impacté notre croissance et qui fait que peut-être il y a quelque chose qui est resté orphelin dans notre cœur. Au niveau affectif, quand on a dû apprendre à survivre avec des manques, ça va se manifester comment un corps orphelin va systématiquement manifester une certaine immaturité émotionnelle. Il ne peut pas aimer véritablement parce qu'il reste centré sur lui. Il n'arrive pas à se centrer sur l'autre. Un cœur orphelin a une vraie difficulté à vivre des relations intimes, profondes, vivifiantes. Il est comme cette femme, en marge, éloigné, peu d'intimité. Parce qu'il y a la méfiance qui est dans son cœur. C'est ça qui le fait rester en marge. Alors pour moi, ce « ma fille » de Jésus, qui résonne publiquement devant tout le monde, va justement rejoindre tout ce qui est orphelin dans le cœur de cette femme. Et ce « ma fille », ça aurait pu être mon fils, va nourrir ce sentiment d'appartenance qui était tellement carencé. Il nous est dit dans cette histoire que cette femme avait dépensé tout ce qu'elle avait pour aller bien. Mais nous aussi, nous agissons souvent comme ça, n'est-ce pas ? On fait tout notre possible, on fait du mieux qu'on peut, on s'investit à fond, on va tout donner jusqu'à l'épuisement peut-être pour combler ces manques qui hurlent au fond de nous, pour qu'enfin quelqu'un nous reconnaisse, pour enfin recevoir l'amour dont on est tellement assoiffé, pour enfin recevoir l'estime qui nous manque, pour enfin recevoir ces paroles de validation, cette sécurité qui nous manque au fond de nous, pour enfin recevoir tout ce qui a tellement manqué à l'enfant que nous étions. L'orphelin, comment fonctionne-t-il ? Il fait toujours plus. Parce qu'il est agité par l'inquiétude au fond de lui. Parce qu'il a peur de perdre. Parce qu'en fait, il ne sait pas ce qu'est le repos pour son cœur. Alors Jésus, avec ce pronom possessif, ma fille, mon fils, en fait, ce pronom possessif va résonner dans le cœur de cette femme, il va l'afficher devant tout le monde, il va l'honorer, il va honorer sa foi devant tout le monde. Et on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais pour faire la boucle avec ce qu'on a dit vendredi soir, il y a aussi quelque chose avec le mot fille qui touche à sa féminité, qui va guérir sa matrice. Sa matrice, c'est sa capacité à transmettre la vie et à rayonner autour d'elle. Pour celle qui était là hier, vous voyez de quoi je fais allusion. Et donc Jésus, jusqu'au bout, va pouvoir aller plus loin que la guérison de son corps. Il va aller toucher les profondeurs de son être. Et je crois que ce Jésus, il est là aujourd'hui. Et il y a quelqu'un pour qui il aimerait que ce mon fils ou ce ma fille résonne dans son cœur. Parce que c'est cette parole qui va venir guérir tout ce qui reste d'insécure et d'orphelin au fond de nous. Et alors pour conclure, j'aimerais vous proposer un temps de prière. Et pour ça, je vais vous demander si vous voulez bien fermer vos yeux. Parce que maintenant, je vais lancer deux invitations. La première, c'est pour toi qui regardes Jésus de loin. Alors peut-être que tu es né entre deux pages de la Bible. Ou peut-être que c'est la première fois que tu viens. Mais tu sais que tu es en marge, tu sais que tu es lointain, tu sais que tu regardes ça de loin. Est-ce que tu veux rejoindre ce Jésus aujourd'hui et commencer une relation avec lui? Si c'est oui, je vais te demander de lever la main maintenant, pendant que tout le monde a les yeux fermés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui regarde de loin et qui veut commencer aujourd'hui une relation, une connexion avec Jésus? Oui, je t'ai vu, merci. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut faire cette démarche? Alors, je vais maintenant lancer une seconde invitation pendant qu'on a les yeux fermés. Et cette seconde invitation, elle concerne tous ceux qui sont proches de Jésus, qui ont déjà vécu cette rencontre avec lui. Mais si tu réalises qu'au fond de toi, il y a encore une partie de ton cœur qui fonctionne comme un orphelin, si tu veux quitter ce sentiment de survie à l'intérieur de toi, si tu veux pouvoir goûter à cette vie qui jaillit en abondance de ton cœur, cette force divine, si tu veux que ce mon fils, ma fille, vienne résonner dans ton être jusque dans les plus profondeurs de ton âme, si tu veux que Jésus vienne guérir ce qui est blessé, ce qui est inquiet, ce qui est sur le qui-vive au fond de toi, si c'est ton cas, je vais t'inviter à lever maintenant la main, toi aussi. Ouais. Ouais. Je vais prier pour chacun de vous. Y a-t-il encore quelqu'un avant que je prie? Oui. Merci Saint-Esprit. Tu connais chaque histoire, tu connais chaque cœur. Seigneur, tu connais chaque fille ici qui a besoin d'entendre résonner ce « ma fille », qui a besoin d'entendre, Seigneur, cette nouvelle filiation, qui a besoin, Seigneur, de rentrer dans ta lignée avec tout l'héritage que tu as en réserve pour elle. Seigneur, tu connais tous les hommes ici qui ont levé la main, qui ont besoin, Seigneur, de ce sentiment de validation, d'entendre résonner au fond d'eux ce « mon fils bien-aimé » en qui j'ai mis toute mon affection. Seigneur, merci maintenant de passer entre les rangs, d'aller toucher les cœurs, d'aller faire résonner la parole de ton Saint-Esprit dans chacun des cœurs. Seigneur, merci parce que tu vas entamer avec ces personnes un processus de restauration. Seigneur, tu vas les faire quitter la survie, Seigneur. Tu les fais sortir du désert. Et Seigneur, tu les amènes vers ces verts pâturages qui vont nourrir leur âme. Alors Seigneur, je prie, Seigneur, pour que tu continues ce processus dans leur vie, qu'ils ne lâchent pas, même si la foule est dense et hostile, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et pour la personne qui a levé la main pour le premier appel, j'aimerais vous encourager à aller parler soit à Dominique, soit à Laurent, soit à Anna, quelqu'un de l'Église, pour pouvoir aller plus loin dans cette démarche avec quelqu'un qui sera témoin. Merci beaucoup pour votre écoute et soyez bénis.